Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Les Nouveaux Chemins font tous les jours une tragédie à partir de rien. En compagnie de Bérénice Chassor, Agrippine Mosna-Savoie, Titus Salomon et Pyrrhus Molinier, à la réalisation des 5 actes musicaux cette semaine à Sia Juni Ralide, avec aujourd'hui à la prise de son racinienne Vincent René. À 10h50, ce sera l'heure de retrouver François Nudelmann pour le journal de la philosophie. François qui s'entretiendra aujourd'hui avec Roger Paul Droit à propos de son dernier livre « Petites expériences de philosophie entre amis » paru aux éditions Plon. Après Britannicus et Andromaque, lundi et hier mardi, avant de terminer par la violence divine et incestueuse de Phèdre demain jeudi, c'est aujourd'hui avec Bérénice, la pièce dont il est dit qu'il ne se passe rien, que le tragique y est dissous dans le pathos et qui ose donner à voir une scène entièrement vide, que nous allons prolonger notre réflexion autour d'eux et avec Jean Racine. Titus, nouvel empereur de Rome, aime depuis 5 années et avec passion Bérénice, reine de Palestine. Mais le peuple de Rome refuse d'être gouverné par une étrangère et donc s'oppose à leur mariage. Par devoir envers son empire, Titus se voit contraint de renoncer à Bérénice, ce qui lui brise le cœur jusqu'aux larmes. Antiochus, le roi de Commagène, est lui aussi amoureux de Bérénice, mais d'un amour non réciproque, qui le fait souffrir et qu'il ne parviendra pas ni à éteindre ni à contraindre. Le début de cette histoire en est aussi la fin, car au cours des 5 actes qui composent la pièce, il ne se passera rien d'autre que ce conflit entre le devoir et le cœur, entre la passion et la raison, l'espoir et la nécessité. Rien d'autre, mais c'est parce que tout y est. Comme le dit Racine dans sa préface, ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie. Il suffit que l'action en soit grande, que les personnages en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tous y ressentent de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. Toute cette pièce, si l'on y prend garde, n'est que la matière d'une scène où Titus voudrait quitter Bérénice. L'amante en serait marie et se voudrait tuer. L'empereur la menacerait de se tuer lui-même si elle se tuait. Et Bérénice, afin de n'avoir pas le déplaisir de voir en l'autre monde l'ombre de son ingrat, aimerait mieux vivre et prendrait congé pour la Palestine. N'est-il pas plus adroit, sans s'aller embarrasser d'incidents, d'avoir ménagé cette scène et d'en avoir fait 5 actes? Premièrement, on se délivre par ce stratagème de la fatigue que donnait à Sophocle le soin de conserver l'unité d'action dans la multiplicité des incidents. Car à peine y a-t-il une action ici, bien loin d'y en avoir plusieurs. Sans le prince de Commagène qui est naturellement prolixe en lamentation et irrésolution et qui a toujours un « toutefois » et un « hélas » de poche pour amuser le théâtre, il est certain que toute cette affaire s'expédierait en 1 quart d'heure et que jamais action n'a si peu duré.
Eh bien, Seigneur, mais quoi, sans me répondre, vous détournez les yeux et semblez vous confondre? Ne m'offrirez-vous plus qu'un visage interdit? Toujours la mort d'un père occupe votre esprit. Rien ne peut-il charmer l'ennui qui vous dévore?
Plus ton ciel que mon père, hélas, vécut encore, que je vivais heureux.
Seigneur, tous ces regrets de votre piété sont de justes effets, mais vos pleurs ont assez honoré sa mémoire. Vous devez d'autres soins à Rome, à votre gloire. De mon propre intérêt, je n'ose vous parler. Bérénice, autrefois, pouvait vous consoler. Avec plus de plaisir, vous m'avez écouté. De combien de malheurs pour vous persécuter vous ai-je, pour un mot, sacrifié mes pleurs? Vous regrettez un père, hélas, faible douleur. Et moi, Ce souvenir me fait frémir encore. On voulait m'arracher de tout ce que j'adore, moi, dont vous connaissez le trouble et le tourment quand vous ne me quittez que pour quelques moments. Moi qui mourrais le jour qu'on voudrait m'interdire de vous...
Madame, hélas, que me venez-vous dire? Quel temps choisissez-vous à de grâce arrêter? C'est trop pour un ingrat prodiguer vos bontés.
Pour un ingrat, Seigneur, il le pouvait-vous être? Ainsi donc mes bontés vous fatiguent peut-être.
Non, madame, jamais, puisqu'il faut vous parler. Mon cœur de plus de feu ne se sentit brûler, mais...
Achevez.
Hélas.
Parlez.
Rome. L'Empire.
Eh bien?
Sortons, Paulin, je ne lui puis rien dire.
Bonjour Sylvaine Guyot.
Bonjour Adèle Vendrette.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Vous êtes assistante professeur à Harvard et l'auteur, entre autres, d'un ouvrage sur Racine intitulé Racine ou l'alchimie du tragique qu'on trouve aux éditions PUF. Le reproche qu'on a pu faire à Racine concernant cette pièce Bérénice, à savoir qu'il avait fait une pièce qui aurait pu tenir en un quart d'heure, voire en une scène, c'est le texte de Villard que j'ai lu juste avant. Donc Villard qui était à l'époque, qui était très critique envers la pièce de Racine intitulée Bérénice. Donc, est-ce que ce reproche est vraiment justifié? En effet, on a entendu l'extrait, tout y est. Titus va quitter Bérénice et il n'arrive pas à lui dire. Et donc toute la pièce va essayer de montrer comment les stratagèmes qu'il va mettre en œuvre pour contourner cet aveu, puis lui dire, puis les réactions de Bérénice. Mais au fond, tout tient en une phrase.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec le jugement polémique, ironique, on l'a entendu de l'abbé de Villard, qui est un abbé mondain, aventurier, qui n'est pas très connu et qui va saisir en quelque sorte l'occasion du succès de la pièce racinienne pour lui-même se faire connaître un peu en lançant la polémique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du ton piquant, assez acerbe de sa critique, finalement, et ce qui est souvent le cas dans les écrits polémiques, Villard voit juste. Et il saisit ce qui fait l'extraordinaire singularité de cette pièce et que Racine lui-même dans sa préface, au moment où il va répondre à ce libelle de l'abbé de Villard, va revendiquer, à savoir une simplicité d'action. C'est-à-dire, le terme de simplicité d'action, c'est la concentration extrême de tout l'enjeu dramatique autour d'une seule question. Et comme Racine le dit lui-même, l'invention consiste ici à faire quelque chose de rien. Alors, effectivement, qu'est-ce que c'est que ce rien ? On a ici une tragédie très particulière, comme vous le disiez à l'instant, qui ne présente pas du tout les caractéristiques traditionnellement associées au genre. Pas de cadavre, pas de violence, mais seulement cette séparation contrainte, finalement acceptée, entre deux amants de surcroît parfaits, ou presque, on y reviendra sans doute, imposés par la loi de Rome. Alors, motif assez convenu qui, en plus ici, se trouve vraiment réduit à son canevas minimal, puisque non seulement il est question d'une séparation amoureuse, mais la décision a été prise en amont. Et quand Titus, donc l'empereur de Rome, entre en scène pour la première fois, à la deuxième scène de l'acte 2, il annonce « Pour jamais, je m'en vais séparer ». Donc, on a ici, au fond, une tragédie de la parole ultime. Toute la question, ça va être comment trouver les mots pour parler pour la dernière fois, l'expression se retrouve dans la bouche des trois protagonistes, se parler pour la dernière fois, pour se dire que l'on se quitte pour jamais. Et même chose, ce pour jamais se retrouve 6 à 7 fois.
Donc toute la question sera de savoir comment mettre en mots, comment trouver les termes appropriés pour mettre en œuvre une décision qui a déjà été prise, qui précède la pièce, mais que l'on a du mal à appliquer. En fait, la pièce serait le passage, la mise en œuvre, le passage à l'acte d'une décision qui a été prise bien avant le début de la pièce.
Oui, tout à fait. On a vraiment, au fond, cette mise à l'épreuve de la décision politique et dans cet échange dont on a entendu un extrait entre Bérénice et Titus, Titus, qui est le premier échange de la pièce, entre les deux amants, on a l'inverse total de ce qu'on pourrait attendre, évidemment, d'une rencontre amoureuse, où toute la question, ça va être ce travail laborieux pour l'empereur de dénoncer, de verbaliser, d'articuler sa décision, c'est-à-dire avant même de la mettre en œuvre, de prononcer la parole performative, c'est-à-dire l'ordre qui va commander à Bérénice de partir. Donc finalement, tout l'enjeu des trois premiers actes, après ça va se déplacer, ça va être la question de comment donner voix à la loi romaine.
Mais alors, peut-être pour mieux comprendre le reproche qui lui est fait de faire une pièce sur rien, reproche que lui-même assume, puisqu'il y voit le génie de l'inventeur, de toute l'invention, que de faire quelque chose à partir de rien, on peut peut-être préciser en quoi cette pièce dénote et marque un contraste particulier avec les autres pièces contemporaines, notamment les pièces de Racine, mais également la pièce de Corneille, puisque rappelons-le, quand cette pièce Bérénice est jouée, c'est une semaine avant la pièce de Corneille, intitulée Tite et Bérénice, qui porte donc sur le même sujet. Corneille, qui à l'époque est non seulement son grand rival, mais et surtout avant la pièce de Bérénice, est bien plus connu que Racine. Et Racine, en ayant l'audace de s'affronter, de s'atteler au même sujet que Corneille, en réduisant la pièce à sa trame minimale, va connaître et rencontrer un succès immense où il va littéralement pulvériser son adversaire Corneille.
Oui, alors effectivement, on a là un cas alors qui est une habitude dans la vie théâtrale du XVIIe siècle de doublon, où effectivement deux pièces sont jouées au même moment sur un sujet similaire. Là, on a vraiment le moment 1670-71, la saison théâtrale 70-71, c'est le moment d'un renversement dans de très net entre le vieux Corneille et la tragédie racinienne. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs comment ces deux grandes vedettes théâtrales du moment se sont retrouvées à écrire tous les deux une pièce sur le même sujet. Les opinions divergent. On a très longtemps penser que cette écriture en doublon relevait d'une compétition officielle qui aurait été commanditée par Henriette d'Angleterre, qui était la belle-sœur du roi, et qui aurait demandé à Corneille et à Racine d'écrire en même temps une pièce sur le même sujet. Bon, de toute évidence, il s'agit là d'un moment de la légende biographique racinienne. Plus probablement, il s'agissait d'une rivalité entre les deux troupes principale parisienne de l'époque. Alors, ce qui est intéressant dans le traitement racinien par rapport au traitement cornélien, c'est que dans le traitement cornélien, l'intrigue est beaucoup plus compliquée. On n'a pas deux personnages qui s'aiment d'un amour réciproque, mais un quatuor amoureux qui provoque une situation de jalousie passionnel entre deux femmes, Domitie que Titus a prévu d'épouser à la place de Bérénice, et une situation également de rivalité, d'ambition entre les deux femmes qui toutes deux veulent se faire accepter par le Sénat. Il y a un vote officiel. Et par ailleurs, le rapport à la gloire est totalement différent. Chez Corneille, Bérénice sera finalement reconnue par le Sénat romain qui lui accorde la citoyenneté romaine. Et c'est Bérénice qui décide librement de partir pour permettre à l'empereur pour ne pas mettre en péril la dignité impériale. On voit bien que chez Racine, on est beaucoup plus dans une tragédie de l'acceptation d'une décision déjà prise, irréductible, et où on ne peut que par intermittence espérer que Titus finalement décide de rester avec Bérénice, mais sans beaucoup d'espoir.
Acceptation de cette décision, y compris par Titus lui-même, qui a pris la décision, mais qui semble revenir dessus, d'ailleurs, à plusieurs moments dans la pièce. Et l'utilisation du langage dont vous parliez, puisque si la décision est prise avant la pièce, que la pièce donne juste à voir la mise en œuvre de cette décision, alors le langage devient une arme pour persuader les autres personnes, ou alors pour en jouer, justement, mais aussi pour se persuader soi-même. Et c'est exactement ce que semble faire Titus à la scène 4 de l'acte 4, où il est seul, justement, et il se parle à lui-même en se demandant. Il est comme dans une scène de schizophrénie ici, puisqu'il y a l'empereur en lui qui lui donne l'injonction de garder, de raison garder, et donc de vouloir gouverner en tout bien, tout honneur vis-à-vis des citoyens, des habitants de Rome. Et de l'autre, il y a l'amant, l'amoureux, Titus, qui est éperdument amoureux de Bérénice. En tout cas, à ce moment-là de la pièce, ça ne fait aucun doute, quoi qu'en disent certains interprètes, et qui donc se trouve face à ce dilemme qu'il ne sait comment trancher. Écoutez la façon dont Racine écrit la pensée de Titus à ce moment-là et l'utilisation du langage qui en est faite.
Eh bien, Titus, que viens-tu faire? Bérénice t'attend. Où viens-tu, téméraire? Tes adieux sont-ils prêts? T'es-tu bien consulté? Ton cœur te promet-il assez de cruauté, car enfin au combat qui pour toi se prépare, c'est peu d'être constant. Il faut être barbare. Soutiendrai-je ces yeux dont la douce langueur sait si bien découvrir les chemins de mon cœur, quand je verrai ces yeux armés de tout leur charme, attachés sur les miens, m'accablés de leurs larmes, me souviendrai-je alors de mon triste devoir? Pourrais-je dire enfin, je ne veux plus vous voir. Je viens percer un cœur que j'adore, qui m'aime. Et pourquoi le percer? Qui l'ordonne? Moi-même. Car enfin, Rome a-t-elle expliqué ses souhaits? L'entendons-nous crier au bord de ce palais? Vois, je l'étais penchant au bord du précipice. Ne le puis-je sauver que par ce sacrifice? Tout se tait. Et moi seul, trop prompt à me troubler, j'avance des malheurs que je puis reculer. Et qui sait si sensible aux vertus de la reine? Rome ne voudra point l'avouer pour romaine. Rome peut par son choix justifier le mien. Non, non, encore un coup, ne précipitons rien. Que Rome, avec ses lois, mette dans la balance tant de pleurs, tant d'amour, tant de persévérance. Rome sera pour nous. Ouvre les yeux. Quel air respires-tu? N'es-tu pas dans ces lieux où la haine des rois avec le lait sucé par crainte ou par amour ne peut être effacée? Rome jugea ta reine en condamnant ses rois. N'as-tu pas en essai entendu cette voix? Et n'as-tu pas encore, oui, la renommée t'annoncer ton devoir jusque dans ton armée? Et lorsque Bérénice arriva sur tes pas, ce que Rome en jugeait, ne l'entendis-tu pas? Faut-il autant de fois te le faire redire? Ah, lâche! Fais l'amour et renonce à l'empire au bout de l'univers. Va, cours, te confiner. Et fais place à des cœurs plus dignes de régner. Sans cela, ces projets de grandeur et de gloire qui devaient dans les cœurs consacrer ma mémoire. Depuis 8 jours, je règne. Et jusque à ce jour, qu'ai-je fait pour l'honneur? J'ai tout fait pour l'amour. D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre? Où sont ces heureux jours que je faisais attendre? Quels pleurs ai-je séché? Dans quels yeux satisfaits ai-je déjà goûté le fruit de mes bienfaits? L'univers a-t-il vu changer ses destinées? Sais-je combien le ciel m'a compté de journées et de ce peu de jours si longtemps attendus? Ah, malheureux, combien j'en ai déjà perdu!
Lorsque Titus, interprété ici par Daniel Hivernel, se met face au dilemme qui est le sien de choisir entre Rome ou Bérénice, le monologue qu'on vient d'entendre, en tout cas, ne donne pas d'éléments pour savoir où son cœur, de quel côté son cœur va pencher, puisqu'en réalité, gouverner Rome est aussi une affaire de cœur. C'est un devoir, mais c'est quelque chose qui lui est important, qui est important pour lui. Il me semble que ce monologue est intéressant pour cela, c'est que le balancement est égal entre d'un côté Bérénice et Rome. On ne sait pas lequel va l'emporter. Et dès qu'ils essayent de se ramener à la raison, en se disant « Mais non, c'est Rome, tu es empereur, c'est cela que tu dois faire », le vers suivant, Bérénice revient. Il est intéressant de noter que la façon qu'a Bérénice d'être présente dans ce monologue, à travers son regard et à travers ses larmes, que Titus semble redouter. Il dit qu'il ne saura pas affronter le regard baigné de larmes de Bérénice. Sylvaine Guyot.
Alors oui, tout à fait. On a vraiment cette figure cette représentation du face-à-face amoureux comme un combat. Hein. Évidemment, la figure guerrière de l'homme opposée à la figure élégiaque de l'amante désespérée qu'il va s'agir de quitter. Et autour de toute cette rhétorique des larmes se noue ici une des grandes thématiques de Bérénice et un des grands ressorts dramaturgiques de Bérénice. Il s'agit ici, comme d'ailleurs Racine le note dans sa préface, de faire pleurer le public en montrant sur scène des corps qui pleurent. Et apparaît ici, on est à la fin de l'acte 4, une première interrogation qui est celle de dans quelle mesure les larmes de désespoir peuvent-elles être soutenables ? Et c'est intéressant puisque le monologue de Titus succède à une scène entre Bérénice et Phénice, sa confidente, la confidente de Bérénice, dans laquelle Bérénice prépare une véritable offensive oratoire de ses larmes, puisqu'elle paraît, dit Phénice, les voiles détachées et les cheveux épars, souffrez que de vos pleurs je répare l'outrage. Propose la confidente et Bérénice refuse. Laisse Phénice, il verra son ouvrage et que m'importe, hélas, de ses vains ornements. Si ma foi, si mes pleurs, si mes gémissements, mais que dis-je mes pleurs, si ma perte certaine, si ma mort toute prête, enfin, ne le ramène, dis-moi, que produiront tes secours superflus et tout ce faible éclat qui ne le touche plus ? Toucher l'amour. Toucher l'amant par le spectacle de ce désespoir pour le pousser, hein, le convaincre de la garder.
On n'est donc plus là uniquement dans une utilisation du langage comme art, mais aussi une utilisation du corps, de l'apparaître. Et le spectacle, vous l'avez dit, elle veut se donner en spectacle à sa propre tristesse et son propre désespoir.
Oui, tout à fait. Et effectivement, le fait même que la présence de Bérénice déconstruise dans le vers qui suit la fin du monologue impérial la décision de suivre l'impératif de la gloire montre bien que c'est avant tout l'incarnation, hein, la maîtresse comme corps, hein, qui est un obstacle, et un obstacle à la réalisation de la gloire de l'empereur. Et Bérénice, d'ailleurs, entre en scène de quelle manière ? Ce qui est intéressant au début de la scène 5 de l'acte 4, c'est la première didascalie de cette tragédie, qui ne compte que trois didascalies externes. Bérénice, en sortant, hein, donc elle entre sur scène, elle sort de son appartement. « Non, laissez-moi, vous dis-je. » En vain tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Et on a, au fond, un personnage qui se précipite sur scène, happé elle-même par la présence de l'autre. Donc on a souvent fait de Bérénice, avant tout une tragédie du langage, ce qu'elle est, de toute évidence. Mais ce n'est pas pour autant, disons, qu'elle est une tragédie sans corps. On a ce travail, hein, sur l'efficacité du visage en larmes et toute une interrogation également sur l'aimantation désirante, sur le magnétisme du désir, sur ces corps qui s'attirent et qui viennent rendre d'autant plus douloureuse la réalisation de la séparation.
C'est comme si Racine, ayant décidé de dépouiller au maximum sa pièce d'éléments superflus, en réduisant au minimum le nombre de personnages et en concentrant toute l'intrigue autour d'une seule passion, entre deux personnages, que sont Bérénice et Titus, même si on n'en a pas encore parlé, mais il a quand même le rôle d'Antiochus, qui lui aussi est amoureux de Bérénice et qui va jouer le rôle de porte-parole. Mmh. On a plutôt ici un trio, hein, il est important de le soutenir, mais en tout cas réduit à cette forme minimale d'intrigue et de personnage, la pièce pouvait s'adonner entièrement à la description des mécanismes passionnels. Mmh. En réalité, on a pu faire le reproche à Racine que cette pièce était une pièce sur rien. mais c'est peut-être l'inverse. Sur rien, dans la mesure où il y a moins de péripéties et moins de personnages, mais c'est la pièce qui donne à voir, dans toute sa splendeur, les mécanismes et le spectacle de la passion.
Oui, je crois que cette idée du spectacle de la passion est très, très important dans l'idée, au fond, que c'est alors peut-être moins les mécanismes de la passion que vraiment cette question de l'expression, que ce soit l'expression verbale ou l'expression corporelle. Finalement, comment donner voix, comment donner corps à une passion, qu'elle soit d'ailleurs réalisée, comblante, ou qu'elle soit contrariée.
Ce qui est le propre du théâtre lui-même, d'ailleurs, parce que le théâtre se pose la question de la mise en scène et du spectacle des passions.
Oui, on aurait finalement là quelque chose comme une sorte de quintessence de la tragédie, hein, autour de cette interrogation, hein, sur l'incarnation, la verbalisation de la passion. Oui, de la passion douloureuse, oui, tout à fait.
Alors, comment expliquer en ce sens, du coup, que Racine, après Bérénice, en revienne à des formes de tragédie qui soient plus, disons, conventionnelles, où il y a de nouveau du sang, des meurtres, et le tragique plus grandiose, qui était celui de Corneille? Pourquoi? On a l'impression que Bérénice est une forme d'aboutissement, en réalité.
Alors, c'est vrai, il y a ce cas particulier. Je crois que Bérénice est un cas très particulier dans une pièce singulière dans l'œuvre, si tant est qu'il y ait une œuvre racinienne. Ce qu'il faut pas oublier quand on considère précisément cette question de l'œuvre comme s'il y avait une unité ou une cohérence, c'est que Racine prend en compte ici la diversité des attentes de ses publics et va finalement constamment explorer différentes formes de tragique entre les ressorts puissants, archaïques, traditionnels d'une forme de tragique antique fondée sur le sang, la violence, la tyrannie. Et puis de l'autre côté, des attentes qui correspondent beaucoup plus à l'essor de l'esthétique galante et qui est aussi qui est l'esthétique plus féminine, faire pleurer les dames dans les salons, et que en prenant en compte la diversité de ces publics et en cherchant selon les tragédies ou parfois à l'intérieur même d'une même pièce, a suscité des émotions tragiques qui peuvent être disparates.
Ce qui montre bien du coup la façon de l'esthétique nouvelle en réalité que met en œuvre Racine, puisque c'est ça dont il est question. Il y a comme une révolution esthétique qui l'opère à partir d'un thème qui pourtant il reprend de l'Antiquité, un thème qui a déjà été traité par Sophocle, par d'autres, par Corneille simultanément, on l'a dit. Et c'est pour lui, c'est en ça que sa préface est vraiment très intéressante et très juste, que l'invention, on juge le degré de la qualité d'une invention à partir de son sujet de départ, à savoir le rien. En imitant et en prenant un sujet extrêmement simple comme point de départ, Racine donne lieu à une révolution. Je pense que le terme n'est pas exagéré, une révolution esthétique. On est là dans l'essence du théâtre. Il y a plusieurs registres, il y a plusieurs façons d'aborder cette pièce. Il y a la perspective plus anthropologique sur les passions, la façon d'exprimer des passions. Il y a l'aspect esthétique, la mise en vers, la mise en bouche et en langage de ce langage des passions. Et puis il y a l'aspect visuel, l'aspect proprement esthétique, théâtrale, qui peut-être cristallise toutes ces perspectives.
Oui, c'est alors d'ailleurs ça permet de saisir vraiment ce qui fait la définition du genre tragique au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, j'en profite pour repréciser que la pièce de Corneille n'est pas une tragédie, c'est une comédie héroïque. Donc les ressorts et précisément le type d'émotion que une comédie héroïque vise à produire se distingue très nettement du type d'émotion que la tragédie vise à produire. Et ce qui est intéressant dans la préface de Bérénice, c'est l'apparition d'une catégorie esthétique tout à fait nouvelle, qui est celle de la tristesse majestueuse. Alors on est là dans autre chose que la crainte et la terreur, qui sont les catégories tragiques aristotéliciennes traditionnelles. On est là dans autre chose également que l'admiration, qui est le ressort cornélien par excellence. Corneille ajoute l'admiration en quelque sorte aux catégories d'Aristote, de la crainte et de la pitié. Et ici, on a une sorte de nouvel ajout, si on peut dire. Alors, oui, de l'ordre de l'esthétique, c'est-à-dire de l'esthétique au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire quel type de pathos, hein, quel type de passion provoquer chez le spectateur. Qu'est-ce que le spectateur doit ressentir devant la tragédie, et on est là dans ce mélange, hein, de sensibilité galante et de crainte aristotélicienne, parce que l'on craint aussi, hein, dans cette tragédie, que tout le monde finisse par mourir.
C'est Bérénice qui désire Titus. Titus n'est lié à Bérénice que par l'habitude. Bérénice est au contraire liée à Titus par une image, ce qui veut dire, chez Racine, par Eros. Cette image est naturellement nocturne. Bérénice y revient à loisir chaque fois qu'elle pense son amour. C'est donc essentiellement à Bérénice et à elle seule qu'appartient ici le pouvoir érotique. Toutefois, ce pouvoir, contrairement au dessin habituel de la tragédie racinienne, n'est pas doublé d'un pouvoir politique. Les deux pouvoirs sont disjoints, et c'est pour cela que la tragédie finit d'une manière ambiguë, comme si elle s'épuisait, privée de cette étincelle tragique qui naît ordinairement de la condensation excessive de ces deux pouvoirs dans une même personne. Puissante, Bérénice tuerait Titus. Amoureux, Titus épouserait Bérénice. Leur survie à tous deux est comme une panne, le signe d'une expérience tragique qui échoue. Ce n'est pas que ces deux figures disjointes ne fassent des efforts désespérés pour atteindre au statut tragique. Titus fait tout son possible pour être amoureux. Bérénice mène une lutte acharnée pour dominer Titus, tous deux employant tour à tour les armes habituelles du héros tragique, le chantage à la mort. Et si, pour finir, Titus fait prévaloir sa solution, c'est d'une façon honteuse. Si Bérénice l'accepte, c'est au prix d'une illusion, celle de se croire aimée. Vous écoutez France Culture, il est 10h32, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, où nous parlons de Racine cette semaine et aujourd'hui de la pièce sur rien, la pièce La Tristesse Splendide de Bérénice, en compagnie de Sylvaine Guyot. Sylvaine Guyot, que pensez-vous de l'interprétation de Roland Barthes, que j'ai lu dans son ouvrage sur Racine? Roland Barthes qui, pour lui, ça a l'air très clair, Titus n'est pas amoureux de Bérénice. Parce que ça change considérablement l'interprétation qu'on fait de la pièce, n'est pas comment mettre en œuvre une décision qui arrache le cœur littéralement à Titus, c'est comment feindre une indécision quand la décision est déjà prise et qu'il n'y a même plus de dilemme, il n'y a même plus de doute à avoir, puisque Titus n'aime pas Bérénice, donc c'est juste comment essayer de se débarrasser d'une amante qu'il n'aime plus.
Alors, c'est une interprétation très séduisante et que reprennent d'ailleurs certains metteurs en scène de la tragédie. Par exemple, Planchon, dans sa mise en scène mythique en 1966, avait représenté un Titus non amoureux qui ne parlait à Bérénice qu'en se mirant dans les miroirs qui se trouvaient en fond de scène et dans lesquels il se plaisait à contempler son propre narcissisme, finalement. Alors, Barthes refuse, au fond, l'idée de renoncement sublime, il refuse l'idée d'une authenticité de la passion. Je crois que c'est une potentialité du texte. Là, on en arrive sur le fait qu'on est effectivement face à un texte de théâtre qui laisse ouverte plusieurs voies d'interprétation. Une potentialité qui repose sur une lecture rhétorique. Finalement, on ne lit dans les paroles de Titus que une stratégie discursive, une stratégie de discours qui viserait à dissimuler sa mauvaise foi et à pousser l'autre à partir. Bon. C'est, me semble-t-il, pas tout à fait ce que l'on voit au premier niveau du texte, si je puis dire, puisque là encore, il est intéressant de ne pas oublier qu'on est au théâtre et de regarder ce que nous dit le mouvement scénique. Peut-être que, effectivement, Titus ment, hein, ou louvoie lorsqu'il explique que voir Bérénice chaque jour lui provoquait un plaisir nécessaire qui ne fondrait donc son amour que dans la seule habitude dont il finirait par se lasser. Il n'en reste pas moins que juste après justement le moment où le moment qu'on écoutait tout à l'heure, on voit Titus qui, à son tour, comme Bérénice juste avant, qui vient de se précipiter sur scène, Titus à son tour quitte le Sénat, hors de lui-même, dit-il, parce qu'il est incapable, je cite, de retenir mes pas que vers vous à toute heure entraînent vos appas. Et on le voit finalement à son tour aimanté sur la scène par le désir de la présence de Bérénice. Alors l'aime-t-il ? Ne l'aime-t-il pas ? Je n'en sais rien.
En tout cas, on pourrait dire que c'est la culpabilité qu'il fait agir ainsi, que c'est par remords et par culpabilité qu'il quitte le Sénat, qu'il ne veut pas se concentrer. Il veut dire l'hypothèse de Barthes, pardon, peut tenir. Après, on rentre dans des considérations psychologiques qui sont voilà
tout peu à importe. Hein, final. Voilà, exactement, de l'ordre là vraiment de l'interprétation au sens fort dramaturgique du terme, où on peut faire parler Titus.
Hein, voilà, mais c'est ça peut-être qu'il y a à retenir du texte de Barthes, c'est que le fait qu'on puisse douter même qu'il soit plausible et finalement assez recevable de douter de l'amour de Titus pour Bérénice montre la complexité des personnages, montre que la passion qui est donnée à voir peut-être est-elle justement donnée à voir de l'ordre de l'apparence, du langage, de la mise en mots, mais ne révèle rien quant à la nature même de la passion. On retrouve ce décalage ici cher à Racine, on en parle lorsqu'on parlait de Britannicus lundi ou hier encore d'Andromaque, entre le décalage entre le regard et le cœur, la façon dont les personnages peuvent jouer avec ce qui émane d'eux-mêmes, que ce soit un regard ou même des larmes qui sortent des yeux, ou le langage qui peut souvent être double et laisser entendre une vérité qui n'est pas celle qui est dite à ce moment-là.
Oui, et puis on a finalement, alors autour de cette question du regard, un véritable conflit qui se noue ici pour Titus entre le regard public, le regard que Rome va porter sur son action pour l'évaluer, et évidemment le regard, et qui est aussi ici la voix, public, hein, et qui est une hypostase, une incarnation de la loi du royaume, qui est aussi la loi du père, et de l'autre côté, l'œil baigné de larmes de la femme contre lequel il s'agit de combattre.
Il est temps que je vous éclaircisse. Oui, Seigneur, j'ai toujours adoré Bérénice. Pour ne la plus aimer, j'ai 100 fois combattu, je n'ai pu l'oublier. Au moins, je me suis tue. De votre changement, la flatteuse apparence m'avait rendu tantôt quelque faible espérance. Les larmes de la reine ont éteint cet espoir. Ses yeux, baignés de pleurs, demandaient à vous voir. Je suis venu, Seigneur, vous appelez moi-même, vous êtes revenu. Vous aimez. On vous aime. Vous vous êtes rendu, je n'en ai pas douté. Pour la dernière fois, je me suis consulté. J'ai fait de mon courage une épreuve dernière. Je viens de rappeler ma raison tout entière. Jamais je ne me suis senti plus amoureux. Il faut d'autres efforts pour rompre tant de nœuds. Ce n'est qu'en expirant que je puis les détruire. J'y cours. Voilà de quoi j'ai voulu vous instruire. Oui, madame, vers vous, j'ai rappelé ses pas, mes soins ont réussi. Je ne m'en repens pas. Puisse le ciel verser sur toutes vos années 1000 prospérités, l'une à l'autre enchaînées. Ou s'il vous garde encore un reste de courroux, je conjure les dieux d'épuiser tous les coups qui pourraient menacer une si belle vie. sur ces jours malheureux que je vous sacrifie.
Nous n'avons pas encore parlé d'Antiochus, le roi de Commagène, Sylvain Guyot. C'est peut-être d'ailleurs assez révélateur de la pauvre fonction qu'exerce ce personnage, Antiochus. Et pourtant, on le voit dès le début de la pièce, et c'est lui qui exprime à son suivant son amour pour Bérénice, amour qu'il sait être non réciproque, mais qu'il n'arrive pas à éteindre en lui. Et donc il se voit contraint de l'avouer une fois de plus à Bérénice en prenant la décision de la quitter, de partir. Or, et c'est ici qu'on en revient à l'intrication très serrée entre les passions et la dramaturgie, Antiochus va être amené à jouer un rôle très important entre Bérénice et Titus, puisqu'il va être tour à tour lui être demandé de jouer le rôle de témoin ou d'intermédiaire. Lorsque Titus va parler enfin à Bérénice et lui dire qu'ils doivent se séparer, il demande à Antiochus de rester. Lorsque Bérénice va elle-même essayer d'utiliser ses larmes et ses armes corporelles à sa disposition pour convaincre Titus, Antiochus, une fois de plus, est là. Il est sans arrêt entre ces deux personnages qui, elles, s'aiment le doute, alors quoi qu'on dise Barthes, hein, le doute n'est pas permis, alors que lui-même est la victime d'un amour non réciproque, mais qui va avoir une fonction. Alors, j'ai dit une fonction dramaturgique très importante. En fait, je ne suis même pas si sûre. La pièce serait la même sans Antiochus, finalement, puisqu'il ne fait pas pencher dans un sens ou dans l'autre. Et les deux personnages, que sont Titus et Bérénice, n'ont pas vraiment besoin de lui. C'est étrange, hein, ce personnage.
Oui, alors, personnage très étonnant, hein, cet Antiochus, qui, effectivement, est condamné au silence, hein, puisque cela fait 5 ans que Bérénice lui a dit qu'elle ne voulait pas savoir qu'il était amoureux d'elle, condamné à l'invisibilité également, puisqu'il se plaint des yeux distraits de Bérénice qui, me voyant toujours, ne me voyait jamais. Et en même temps, qui est ce personnage, comme vous le disiez, spectateur, témoin. C'est une sorte de projection, finalement, du spectateur sur la scène et qui reçoit le spectacle de la séparation douloureuse sur le mode du « hélas », et là encore, l'abbé de Villard n'avait pas tort, c'est-à-dire sur le mode de la déploration élégiaque, hein, et de la pitié éminemment tragique. Alors, c'est intéressant parce que c'est un personnage effectivement tout à fait épisodique au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire un personnage dont l'amour n'intervient pas dans l'action. Et c'est un personnage qui reste marginal, périphérique, et qui en plus relève pour partie de l'invention de Racine, puisqu'il existe un Antiochus, roi de Commagène, qui est la région au nord-est de la Syrie, mais qui, au moment du règne de Titus, n'est plus roi, puisque la région a été annexée par les Romains, qui, par ailleurs, est âgé quand Titus est couronné, et qui, par ailleurs, ne vit pas du tout dans la proximité de l'empereur, mais vit comme un riche particulier. À Rome. Donc Racine lui redonne le titre de roi, il le rajeunit et il en fait une sorte, Picard parle d'un confident monté en grade, hein, un ami très proche de Titus. Donc on a à la fois ce double fantomatique de Titus, héros tendre, plein de respect pour la dame qu'il aime, mais qui ne vit l'amour que dans la virtualité. Il ne va pas du tout au bout de sa passion, il est déjà et toujours dans le renoncement. Et puis, double apparent, finalement, de l'empereur, parce que c'est un personnage fondamentalement de l'échec, hein, qui passif, hein, qui est incapable de prendre une décision et qui est effectivement réduit à ce rôle de porte-voix de l'empereur incapable de tenir un discours et de spectateur de son propre échec, amoureux. Modèle, au fond, de la mélancolie impuissante. Hein. C'est le reste dans la tragédie de la tristesse majestueuse.
Sauf que ce serait au reste sans folie, puisqu'Antiochus n'est pas fou. Antiochus a au contraire toute sa tête et toute sa raison. Et c'est presque par sagesse qu'il propose, dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, dans la scène 7 de l'acte 5, il dit à Bérénice, vous êtes revenus, vous aimez, on vous aime. Lui, ce qu'il propose, eh bien, c'est tout simplement de s'en aller et de mettre fin à ses jours. Il n'y dit pas ça. Même on l'a entendu, hein, le ton du personnage, donc ici interprété par Jean Topart, le donnait bien entendre. On n'est pas ici dans une exagération pathétique ou dans une arme rhétorique qui viendrait essayer de séduire Bérénice, de l'attendrir. Pas du tout. Il dit cela avec une forme de sagesse.
Oui, alors c'est, ça va tout à fait dans ce personnage quasi évanescent qui ne va jamais se poser en rival, qui ne va jamais combattre ni contre Titus, ni effectivement pour tenter de convaincre Bérénice. Alors on est dans un moment un petit peu particulier de la pièce où au fond tout le monde ici menace de se suicider. On a une sorte de surenchère de la menace de suicide, c'est-à-dire on arrive à ce moment où au fond l'élégie qu'a été la pièce jusqu'à présent, grande pièce de la déploration, de la plainte amoureuse, grande pièce de la rhétorique et de l'éloquence des larmes, va ici toucher au risque de mort propre à la tragédie. Sauf que finalement, on est ici peut-être de nouveau dans une ultime forme de cette tragédie du langage, puisque les personnages sont et Titus, et Bérénice, et Antiochus, qui tous les trois menacent de se suicider, sont confrontés à l'incapacité de mettre en œuvre ce qu'ils disent, de traduire en acte ce qu'ils disent. Donc on a au fond, de nouveau, ce qui est un grand motif racinien, la difficulté du langage galant, puisque c'est un motif convenu, vous ne m'aimez pas, donc je vais mourir pour vous prouver moi-même mon amour. La difficulté de ce langage galant à s'inscrire dans le réel.
Mais il n'arrive pas à le mettre en œuvre, c'est surtout que Bérénice ordonne à l'un et à l'autre de ne pas le faire.
Oui.
C'est en cela que Bérénice, on est à la toute fin de la pièce, à la toute fin de la scène 7 de l'acte 5, leur demande, elle leur dit « Arrêtez, arrêtez, prince trop généreux, en quelle extrémité me jetez-vous tous deux ?» Et donc, elle-même, en renonçant de se donner la mort, parce qu'elle comprend bien qu'en fait Titus l'aime encore et donc la mort n'a plus de sens, elle ordonne à ces deux prétendants, ces deux amoureux, puisque les deux, Antiochus comme Titus, sont amoureux d'elle, de ne pas se suicider. Donc c'est moins ici l'impossibilité de mettre en œuvre le suicide que le fait d'avorter ce qui n'était qu'en réalité que l'exploration d'une possibilité.
Oui, alors effectivement, c'est aussi ce moment finalement où tous les personnages se retrouvent pour la première fois à l'unisson. La tragédie a commencé alors que ces trois personnages, ce trio, comme vous disiez, étaient chacun à un stade différent. Titus était déjà dans la tragédie, puisqu'il avait pris sa décision. Bérénice n'y était pas encore, puisqu'elle était ignorante de la loi romaine et de l'impératif de séparation. Antiochus avait décidé de sortir de la tragédie. Et on les retrouve là pour la première fois, oui, à l'unisson en quelque sorte, renonçant non seulement à l'amour, mais aussi à la mort, pour affronter ensemble, dans une certaine manière, dans la douleur et dans la solitude, c'est-à-dire dans une douleur qui ne peut plus être médiatisée par la déploration, il n'y aura plus personne pour me plaindre, une douleur sans terme également, puisque la mort n'est plus susceptible de suspendre cette douleur, bref, dans cette forme de souffrance pure peut-être, ils sont là pour affronter au fond la grandeur héroïque exemplaire, qui est celle du renoncement.
Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même que je ne consens pas de quitter ce que j'aime pour aller loin de Rome, écouter d'autres vœux. Vivez et faites-vous un effort généreux sur Titus et sur moi, réglez votre conduite. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes vœux vos soupirs et vos fers, adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas. Pour la dernière fois, adieu, Seigneur.
Et là, ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez.
mais c'est de déchirer, superbe de chagrin. Abandonne aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans béco.
Merci beaucoup, Sylvaine Guyot, d'être venue participer à cette émission.
Merci beaucoup.
C'est donc avec Jacques Brel, Orly, que nous nous quittons. Orly, effectivement, la chanson qui raconte aussi l'histoire de deux personnes qui s'aiment plus que tout et qui doivent se séparer. On n'a pas le temps, malheureusement, de commenter le dernier mot de cette pièce, dernier mot qui revient à Antiochus comme le premier. Hélas, peut-être que dans cette hélas, il y a toute la différence entre Racine et Corneille. On y reviendra sans doute demain. Merci à vous.
Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient.
C'est pour nous aussi une déchirure et un cri passionnel que de devoir vous quitter. Il est 10h50, et 10h50, c'est l'heure du Journal de la philosophie, présenté par François Nudelmann. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Socrate suscitait l'interrogation philosophique par l'étonnement. Pour cela, il n'est pas forcément besoin de grandes questions métaphysiques. Des situations inattendues, des propositions loufoques, peuvent suffire, comme le montre Roger Paul Droit, en poursuivant ses expériences de philosophie quotidienne avec son nouveau livre « Petites expériences de philosophie entre amis » paru chez Plon. Roger Paul Droit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, journaliste au Monde, et vous nous proposez de nouveau quelques petites expériences. C'est un livre qui se présente, dites-vous, comme une porte-tambour. Pourquoi ?
Parce que la porte-tambour, c'est quelque chose qui vous déporte de votre trajectoire normale. La porte habituelle, on va tout droit. Avec la porte-tambour, on tourne un peu, on est donc décalé. Et puis, il faut aussi sortir de la porte-tambour oui. au bon moment. Sinon, on se retrouve évidemment au point de départ et on reste dehors. Et bien, je prétends, dans l'introduction de ce livre, que ces petites expériences ressemblent à des porte-tambours. C'est-à-dire, elles vous emportent en quelque sorte dans un mouvement, un petit tourbillon. Et c'est à vous ensuite, de l'autre côté, quand on a découvert une question, qu'on commence à l'éprouver, j'ai envie de dire physiquement, comme ça, quand on en voit le trouble et l'étonnement, de poursuivre la trajectoire. Et c'est une manière en quelque sorte inattendue d'entrer dans, sinon la philosophie, au moins un chemin de philosophie.
Vous provoquez, dites-vous, un décalage dans nos habitudes. Vous modifiez notre espace mental, pour continuer dans cette métaphore topographique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un décalage ? Ça veut dire que, bon, tout d'un coup, on était dans des espèces de clichés, de préjugés, et que brutalement ou doucement, on se rend compte finalement qu'on n'avait pas bien réfléchi à la question, ou on n'avait pas bien réfléchi au chemin qu'on devait prendre pour aller à son but.
Vous parliez de l'étonnement. Tout le monde, depuis Aristote et avant lui Platon et jusqu'à nos jours Jean Kélévitch, en passant par Jeanne Hersch, tout le monde a parlé de l'étonnement comme la condition première, originaire de la philosophie. Or, il me semble que finalement, nous nous étonnons de moins en moins. Nous sommes tous pris dans une série de routines quotidiennes, d'enchaînement de nos pensées, de nos gestes, de nos travaux, de nos actes, etc. Et l'objet de ces petites expériences, c'est finalement de susciter de micro-étonnements, des petits déclics, des choses qui finalement déclenchent, parce qu'elle décale, comme une porte-tambour ou un petit sursaut, elle décale les routines de notre quotidien, elles viennent casser quelque chose et on se dit, mais après tout, pourquoi est-ce ainsi ?
Alors, je voudrais donner quelques exemples de ces expériences que vous présentez comme une ordonnance de médecin ou des règles d'un jeu de société, avec beaucoup d'humour dans ce livre. Il y a beaucoup d'humour, un humour un peu de pince sans rire des fois, avec des réflexions sur la disparition des Martiens est un grand malheur. Et vous nous amenez à nous interroger sur la pluralité des mondes, tout d'un coup. Ou bien, qu'est-ce qu'un camembert ? Ou quelle est la distance qu'il y a entre nous et le prochain camembert ? Ou une nourriture encore plus éloignée ou plus exotique ?
Voilà, c'est-à-dire, je pense qu'il est possible de prendre le biais du divertissement en pensant qu'il y a quelque chose qui, là-dedans, stimule la pensée. Et finalement, il y a à chaque fois, comme ça, des déclics. La disparition des Martiens est un grand malheur, certes, mais ce que je suggère pour changer de galaxie, plutôt que des histoires d'extraterrestres et de science-fiction, bah, c'est d'aller au bout de la rue, de découvrir qu'il y a des gens qui, soit n'ont pas à manger, soit au contraire sont tellement riches qu'ils vivent sur d'autres planètes que la nôtre, et que finalement il n'y a rien de plus déconcertant, peut-être étrange, et parfois aussi même intéressant pour la réflexion, que d'aller mesurer ces différences entre nous.
Alors, les expériences que j'ai beaucoup aimées, c'est, rien que déjà dans le titre, aménager un jardin d'interrogation, hein, ou bien fabriquer des éternités, ou encore organiser un concours de surprises. En même temps, je me demande s'il n'y a pas aussi une certaine idée de la philosophie dans vos expériences que vous suggérez. Vous dites à un moment donné, dans la pensée, faire le ménage, c'est à propos de là de se faire une idée de la poussière. Hein. Vous dites, je reprends, dans la pensée, faire le ménage est en fait une activité circulaire. En faisant le ménage dans les idées, on produit des poussières nouvelles qui nécessitent de nettoyer une nouvelle fois en produisant de nouvelles poussières, et ainsi de suite. Cela s'appelle l'histoire de la pensée.
Oui, c'est-à-dire il y a évidemment soit des philosophes cachés dans ces expériences, soit des déclics ou des clins d'yeux, mais je crois qu'on peut les lire aussi comme des morceaux d'exercice littéraire, comme des pages d'écriture. Ce que je souhaite, si vous voulez, dans ce côté insolite, amusant, parfois surprenant et drôle, je l'espère, c'est pas à moi d'en juger, c'est que finalement, les lecteurs s'en emparent. Voyez-vous, je ne prescris pas le chemin, je souhaite simplement qu'on se dise « Ah mais tiens, comme c'est étrange et comme c'est curieux, si j'essayais d'y penser, et après, c'est à chacun de suivre ce déclic et de faire son chemin. »
Mais n'est-ce pas parfois dangereux ?
Par exemple, qu'est-ce qui serait dangereux ?
Justement, je me demande si, Roger Paulhan, vous ne suggérez pas parfois de tout déconnecter, hein, ce qui serait peut-être une expérience philosophique majeure, c'est-à-dire, au fond, le philosophe sort de la doxa, redécouvre d'autres mondes, vous le suggérez, redécouvrir des sons, des lumières, mais en fait, n'y a-t-il pas quelquefois cette tentation de, par exemple, de désapprendre ? Vous suggérez aussi de désapprendre la langue, une expérience de l'étrangeté fondamentale.
Oui, je pense qu'il suffit de peu de choses, fermer tous les ordinateurs et les écrans, imaginer que tout d'un coup, progressivement, nous ne comprendrions plus ce qu'on nous dit, des choses comme ça qui sont évidemment des jeux d'imagination, des expériences de pensée, mais à travers ces différentes variations, il est, je crois, possible de, non pas toucher du doigt, ce serait excessif même comme métaphore, mais d'approcher quelque chose de l'étrangeté du monde, de l'existence, tout ce qui est finalement en quelque sorte recouvert par l'ensemble des significations, de l'éducation, des routines, des enchaînements. Et de temps en temps, je crois qu'il faut tenter de fissurer cette pellicule pour se rendre compte que non seulement il y a des constructions sociales et éducatives qui nous habitent, mais aussi une grande étrangeté de l'existence elle-même et qui peut être inquiétante, comme le disait Freud, mais qui peut être aussi tout à fait rassurante ou familière, mais qu'il faut apercevoir. Voilà mon jeu, si j'ose dire. Je propose par exemple de goûter des lumières ou de faire des choses inhabituelles et parfois purement poétiques, mais le jeu, c'est toujours finalement de craqueler ce vernis de nos habitudes.
Quitte à oublier même parfois son nom, suggérez-vous. Et c'est là aussi, on peut se demander si dans cette porte tambour, on ne risque pas de prendre goût au tourbillon. C'est-à-dire on ne revient ni en arrière et on n'arrive pas à aller en avant. On est dans une sorte de tourbillon perpétuel.
Ça, c'est le tourbillon de la pensée, après tout. Nous sommes en permanence en train de nous fabriquer des idées et peut-être de jouer à nous donner le tournis. Mais ça, c'est une bonne chose.
Merci en tout cas pour ce tournis qui est bien agréable et en même temps très intriguant. Ce sont les petites expériences de philosophie entre amis parues aux éditions Plomb. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup François. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain avec plaisir pour la suite et fin de notre semaine racinienne. Après Britannicus, Andromaque et Bérénice, demain c'est le feu ravageur, démesuré et interdit de Phèdre, qui sera à l'honneur, Phèdre amoureuse du fils de son époux, et qui ne s'en remettra pas. Je ne révèle rien de la fin de la pièce en vous disant cela, c'est Patrick Dandré qui viendra vous en parler. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, sonores concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, l'installer dans votre ordinateur afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Alors d'ici là, lisez Racine et à demain.